Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Dialogue entre Congolais et Akalemi dans la province du Tanganyika, c'est déjà à partir de ce lundi 22 novembre 2021. Retrouvez toute l'équipe sur place pour une série d'émissions grand public. Au menu, le retrait de la MONUSCO de la province du Tanganyika en juin 2022, le point sur la situation sécuritaire de la province, la situation socio-économique sans oublier, le grand rendez-vous des journalistes dans la tribune de presse. Dialogue entre Congolais en direct de Kalemi dans la province du Tanganyika, pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes, Radio Okapi, plus près de vous.
Voilà, on va attaquer la deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, avec ce sujet, quelle est l'importance d'identification de la population congolaise. Nous avons dans ce studio le professeur André Tchikayi, coordonnateur de la cellule des experts à l'Office national de l'identification de la population NIP en sigle. Professeur André Tchikayi, bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci de nous avoir fait le plaisir de venir dans ce studio pour aborder cette question sur l'importance d'identification de la population congolaise. Nous aurons également au téléphone le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza. Lui, il est démographe. Le numéro d'appel, si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, composez les 081-890-6394 ou encore les 099-716-6394. En RDC, les opérations d'identification de la population du recensement vont aller jusqu'en mai 2023, selon le ministre du Plan Christian Mondo, qui l'a fait savoir à la presse le 7 septembre 2021 à Kinshasa, au terme d'une réunion entre le Premier ministre et les membres de la commission mixte d'experts mise en place pour les opérations du recensement et d'identification de la population. Quelle est donc l'importance de l'identification du recensement de la population congolaise? Je le disais, on en parle déjà avec notre premier invité, le professeur André Tchikayi. Professeur, c'est pour mai 2023. Est-ce qu'on peut se dire que le préparatif va bon train pour le recensement ou il y a encore beaucoup de choses à faire?
Non, les préparatifs sont au beau fixe.
Oui.
Ça fait des années que nous nous sommes préparés à cet exercice important pour la souveraineté de notre pays. Et je dois d'abord, avant d'entrer dans le sujet, rappeler aux téléspectateurs que tout État justifie son existence par son territoire et par sa population. C'est le territoire et la population qui font la souveraineté d'une nation, d'un État. Et cela étant dit, ça fait des années que notre pays a délivré sa dernière carte d'identité. Or, la carte d'identité est un instrument légal, est un instrument juridique qui authentifie l'identité de chaque citoyen, de chaque individu. Et parce qu'on a parlé, Son Excellence Monsieur le Ministre du Plan a parlé de recensement, il faut aussi rappeler aux auditeurs qu'il y a une différence significative entre le recensement de la population et l'identification de la population.
Ah, c'est bien d'avoir plus d'éclairage sur cette différence, allez-y.
Quoique ces deux exercices, ces deux processus concourent à mieux connaître la population, cette différence fait que le recensement de la population est un processus, est un exercice de dénombrement. Par quartier, par avenue, par province, par village, par groupement, par territoire, de telle manière à ce que on puisse établir l'effectif de la population qui compose notre pays. Et cet exercice de recensement s'apparente à une grande enquête socio-économique qui a pour but de pouvoir déterminer les caractéristiques de la population qui compose notre nation. Notamment, on devra savoir parcelle par parcelle, entité par entité, à combien sommes-nous? Combien de personnes habitent telle parcelle? Combien de ménages avons-nous sur chaque avenue? Et chaque ménage a combien d'enfants? Et composé de combien de personnes? C'est ça, ce dénombrement va nous donner l'ensemble de l'effectif de la population. Non seulement ça, il faut connaître maintenant les caractéristiques de cette population.
Et c'est ça l'identification?
Non.
On n'est pas encore dans l'identification.
On n'est pas encore dans l'identification. Nous sommes encore dans le recensement.
Mais c'est déjà beaucoup de travail, rien que pour le recensement.
C'est un grand travail.
Mais quand on parle de 2023,
c'est un grand travail. Oh, oui. On peut aller au-delà. Donc, oui. C'est une approximation.
D'accord.
Les ministres donnent les dates que nous trouvons convenables. Mais on peut aller, sinon, au-delà. Dans d'autres pays, le recensement est presque annuel, chaque année. Mais vous comprenez qu'ici, chez nous, c'est depuis les années 70 qu'on a fait le dernier recensement. Alors, je disais que lorsque on a dénombré ces personnes, il faut prendre maintenant, prélever leurs caractéristiques. C'est combien d'hommes? C'est combien de femmes? C'est combien d'enfants par ménage? Quelles sont les différentes catégories de ces enfants? On peut les classer de 0 à 5 ans, de 6 ans à 10 ans, etc. Quelle est la profession de ces personnes identifiées? Quel est leur niveau d'études? Quelle est leur appartenance religieuse? Et ils habitent quel type de maison? C'est pour ça qu'on dit recensement de la population et de l'habitat. Ils habitent quel type de maison? Quel est le niveau de confort qu'ils ont dans cet habitat? Y a-t-il un téléviseur? Y a-t-il une radio? A-t-on un vélo dans le ménage? Y a-t-il un véhicule? On dort sur quel type de lit?
Jusqu'au type de lit.
Mais c'est ça le caractéristique.
Exactement.
Parce que le recensement va nous permettre, en fait, de situer aussi les niveaux de vie.
Les niveaux de vie, voilà.
Quel est le revenu du ménage? On dépense combien, par exemple, pour les soins de santé? C'est l'ensemble de ces caractéristiques qui permettent à l'État de connaître mieux sa population de manière à pouvoir planifier le développement. Alors, revenons maintenant à l'identification. Parce que moi, je viens de l'Office national d'identification de la population.
Oui.
Alors, l'identification de la population, c'est un exercice aussi administratif. Parce que on a dit que nous sommes aujourd'hui approximativement, on pense que nous pouvons être 100 à 111 millions. On dit que Kinshasa, c'est peut-être 12 à 15 millions d'habitants. Mais qui sont ces habitants? Voilà là où l'identification intervient. Sujet par sujet, personne par personne, il faut maintenant coller à chaque personne identifiée les éléments de sa biographie. Sa date de naissance, son lieu de naissance, ses parents, son milieu d'origine. Et aujourd'hui, pour aller plus loin et donner plus de sécurité à l'identité légale, l'identité juridique de l'individu, on va jusqu'à prendre les éléments de l'authentification. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes prêts, Nous sommes prêts dans notre planning à prélever les données biométriques. Les données biométriques, nous allons prendre la photo. La photo ne sera pas une photo ordinaire des studios.
Oui.
Ça sera une photo numérisée qui donne un certain nombre de caractéristiques. Nous allons prendre les empreintes. L'empreinte digitale va être numérisée de manière à ce que on puisse lui donner un numéro authentifiant. Et en fin de compte, nous prévoyons d'attribuer à chaque citoyen qui sera identifié un numéro d'identifiant unique. Ces numéros, c'est l'alchimie des algorithmes, des mathématiciens, etc. Ce numéro sera unique pour chaque individu. Il va l'accompagner tout le long de sa vie jusqu'à la mort. C'est à la mort que l'identifiant va s'éteindre. Alors, ce numéro a l'avantage que il va accompagner l'individu dans l'approche de tous les services. Par exemple, dès que l'enfant entre à l'école primaire, il a déjà son identifiant. Cet identifiant sera sur son bulletin, sur tous ses documents scolaires, jusqu'à l'université. Quand il va entamer sa carrière professionnelle, cet identifiant va accompagner son numéro, par exemple, de sécurité sociale.
Donc voilà, professeur, donc avec ce recensement et l'identification, on n'aura plus à donner de chiffres approximatifs hein, par rapport à la population congolaise, que ce soit pour l'ensemble du pays ou dans nos villes. Nous avons aussi le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, qui est démographe et qui est en ligne. Professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, professeur André Sika, et bonjour.
Voilà, merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi. Ça vient pas de l'importance d'identification de la population congolaise. Vous êtes un démographe, donc c'est bien évident. Vous, à votre niveau, vous avez une idée de l'importance d'identifier une population, de recenser une population pour éviter à ce qu'on aille souvent dans des supputations.
Oui, justement. Je voudrais d'abord revenir sur ce que disait mon cher collègue André Chigaï tout à l'heure sur le recensement avant d'arriver à dire un mot sur l'identification nationale. Il y a lieu de noter que la première grande opération qui pouvait nous donner quelques informations sur les effectifs de la population et leurs caractéristiques avait été réalisée entre 1955-57. Ça a été coordonné par le feu professeur Anatole Romagnouk. Et pour compléter ou corriger ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Chikai, il y a eu un recensement en 1970 et ce recensement avait été voulu être un recensement scientifique, c'était finalement soldé par un recensement administratif. Et donc, le premier recensement scientifique ou technique de la population a été réalisé en 1984. De 84 à aujourd'hui, ça fait 37 ans. Eh bien, 37 ans, alors que dans les normes des Nations Unies, après un premier recensement scientifique, on doit avoir soit 5 ou 10 ans pour pouvoir organiser un recensement. Et donc, chez nous, on devrait avoir un deuxième recensement scientifique en 1994, au plus tard. Ça n'a pas eu lieu. Et depuis 2005, le ministère du Plan, le département de démographie, l'institution de la statistique et tous les autres ministères se sont retrouvés pour pouvoir préparer le recensement. En 2009, on devrait organiser le recensement scientifique pour donner les effectifs de population à la CENI en 2011. En 2009, pendant que UNFPA, les Nations Unies qui nous accompagnent. Nous étions en train de travailler sur cette question. On a été surpris. Le feu Premier ministre Gizeng va démissionner. Et il a fallu attendre 2011 pour que le Premier ministre Mouzitou reprenne 2010 pour que le Premier ministre Mouzitou reprenne ce dossier. Eh bien, maintenant, pour revenir aux effectifs de la population qui sont déclarés à tort à travers au Congo ou ailleurs, chacun a son chiffre de population. Ce qui est une honte nationale, je dirais. Je m'excuse de ce terme, mais c'est vraiment une honte nationale pour un pays comme le nôtre. Chacun se retrouve avec son effectif. L'Institut national de la statistique, je vous donne un exemple. Nous sommes en 2011.
Oui.
L'Institut national de la statistique nous dit qu'il y a 75 millions de Congolais, ou en tout cas d'effectifs de la population résidant sur le sol congolais. 75 millions. En 2017, et les 75 millions, c'est ce qui avait été prévu d'après les projections par les Nations Unies. On devait être à 76 millions en 2017. Mais déjà en 2011, on avait estimé, les projections établies faisaient 75 millions. En 2017, l'Institut national de la statistique estimait cette population-là à 85 millions. Alors que les Nations Unies estimaient à 87 millions en 2020. Aujourd'hui, vous avez entendu mon cher collègue professeur Chikaï vous dire que nous sommes autour de 100 à 111 millions. Alors que les projections avec les hypothèses des Nations Unies, 87 millions, devait être autour, pas au-delà de 90 millions en 2021. Et voilà pourquoi est-ce que nous devons insister pour aller, pour organiser rapidement le recensement de la population. Nous ne savons pas combien nous sommes. Maintenant, revenons à l'identification. Si déjà au niveau de qui nous sommes, combien sommes-nous, nous ne pouvons pas non plus vous dire qui est qui dans ce pays. Qui est qui dans ce pays? Vous avez entendu... mon cher collègue parlait des caractéristiques religieuses. Vous avez entendu son éminence, le cardinal Lambongo, parler de plus de 90 millions de Congolais qui seraient catholiques ou protestants. 90 millions. Et ça, ce n'est pas de sa faute. En tout cas, ce n'est pas la faute de son éminence. C'est la faute de ce pays, de ce gouvernement. Parce que finalement, on nous a mis dans un flou artistique. Et avec ça, ça pose un problème de sécurité. Lorsqu'on vous dit, quelqu'un du rang de son éminence, qui vous dit 90 millions, comment vous pouvez contester ce chiffre-là? Et il parle de 90 millions, non pas des chrétiens, mais 90 millions qui sont des catholiques et des protestants. Alors que ce chiffre, on devait le trouver dans le rapport de la du recensement.
Donc, professeur.
Allez-y,
terminez votre idée, oui, allez-y.
Oui, justement. Maintenant, en termes de planification du développement, on va. En 2012, nous avons fait une étude sur. Toujours le label de l'INS avec le financement de l'UNICEF, nous avions trouvé qu'il y avait à peu près 12 millions d'enfants en dehors de l'école. 12 millions d'enfants étaient en dehors de l'école. Ça, ce n'était qu'une estimation d'une enquête. Parce qu'une enquête, ce n'est pas un recensement. Une enquête, c'est une étude réalisée sur un échantillon et on peut généraliser les résultats. Et on était dans ces estimations-là à 12 millions d'enfants en dehors de l'école. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité. En parlant de la gratuité, ça aurait été intéressant d'avoir les effectifs du recensement pour pouvoir permettre au gouvernement de faire une bonne planification de cette politique-là. Malheureusement, on est en train de donner des chiffres comme ça, on tâtonne. Et c'est là pour revenir également à l'identification. Parlons maintenant de l'identification. Quand vous allez dans certains pays, mon cher collègue Sigra était en train de parler tout à l'heure, vous allez trouver que chaque citoyen a un identifiant. Et cet identifiant, c'est de la naissance jusqu'à la mort. C'est comme un numéro matricule. On sait qui est qui. Mais dans ce pays, on est juste à côté, dans mon quartier, je ne sais pas, même le chef de quartier ne sait pas qui est qui.
Voilà, professeur de Barthélémy, il a évoqué cela également, professeur André Tchikaï. Donc, il était vraiment temps que ces recensements arrivent. Ah bon, avant d'accorder la parole aux auditeurs, parce qu'il y a déjà deux auditeurs en ligne, il y a Justin qui nous appelle de Fungourou, Mekala Bakiara Aro, une question au professeur André Tchikaï, parce qu'à un moment, on a parlé de moyens, le directeur général de l'ONIPA a parlé de moyens. Si j'ai bonne mémoire, il parlait des 350 millions de dollars pour arriver à organiser les recensements et l'identification. Est-ce qu'on peut estimer du côté de moyens, il se pose plus de problème ou bien il y a encore ce problème de moyens financiers?
Non, le problème des moyens financiers ne se pose plus.
Voilà.
Et d'ailleurs, par ailleurs, il ne s'est jamais posé. Il ne s'est jamais posé. Nous sommes dans un contexte, je ne vais pas m'inscrire un peu dans la logique de mon collègue qui a une approche un peu critique. Hein. Moi, je reste dans une approche de perspective, de ce qui peut être bon, fait et bon, qui va l'être.
On le comprend, lui, il est démographe. Hein, on le comprend, il est démographe, donc pour lui, c'est ça a trop traîné. Hein, ça a trop traîné en tout cas.
Mais évidemment, je suis d'accord avec lui pour dénoncer ce retard que le pays a pris par rapport à d'autres pays. Et c'est pour ça que les leaderships actuels que nous avons, qui portent le projet en lui-même, qui l'inscrit comme l'une des priorités de la gestion du pays et de sa modernisation, nous laissent voir aujourd'hui qu'il y a l'espoir que nous allons arriver à cette opération d'identification de la population.
Et ça sera cet espoir va se réaliser. Je dois me tourner rapidement vers le standard parce que les auditeurs sont déjà en ligne, ils vont s'impatienter. Justin qui nous appelle de Fongoroumé, Kala Bakiaharu, si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. On parle de l'importance d'identification de la population congolaise composée les 081-890-6394 ou les 099-706-63. Donc si vous voulez bien participer à l'émission.
Radio Okapi, le souffle du Congo.
Justin nous appelle de Fongoroumé. Bonjour Justin.
Bonjour monsieur le journaliste, je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Avec joie que je salue le choix du sujet, parce que c'est très très important pour notre pays. Nous avons vécu, notre intervenant l'a dit, de 37 ans, moi j'estime à 40 ans que nous avons vécu à la jungle, ici chez nous au Congo. Et comme les portes sont grandement ouvertes aux expatriés, à nos proches, de pénétrer facilement au Congo, et nous ne savons pas qui est d'où, qui est comment. Donc si on a posé cette question, je crois nos autorités nous suivent. C'est une question très préoccupante que nos dirigeants vont se focaliser pour identifier d'abord, puisque la Bible même le dit, un bon berger est celui qui connaît les brebis, et les brebis aussi les connaissent. Mais nous ne connaissons pas. Moi, d'abord, au moment que je vous parle, je n'ai jamais vu un président de la République de la face comme ça. Et même si je pose quelques questions à nos dirigeants, est-ce qu'ils savent tel village, mais comment tu peux cultiver les champs là où tu ne sais pas piétiner partout? Donc c'est vraiment un élément primordial qui entre même à la gestion de notre pays. S'il y a 10 enfants dans la maison, mais toi tu donnes la ration de 4 enfants. Et dans cette maison, il y aura des disputes, il y aura des bagarres, il y aura des insultes, puisque ce que vous donnez n'arrive pas à suffire. Toi-même, tu ne connais pas les nombres. Et ce n'est pas longtemps qu'on a présenté les budgets. Je ne sais pas ces budgets, c'est pourquoi et ça sera où, puisque juste au moment que je vous parle, il y a même des endroits là où on n'a jamais vu l'action du gouvernement dans ces lieux-là. J'ai décrié l'affaire de la pourriture des manioc dans le secteur Kapamaï, précisément dans les villages Kayeyem, Pom, Masenga, Kilomboï. Et j'ai publié même sur Facebook la lettre que ce gens criait que nous allons mourir de faim. Personne n'a réagi. c'est puisqu'on ne connaît pas bien ce milieu. Alors, j'ai dit, hey, monsieur le journaliste, que nos autorités se mettent à la table. Si on n'a pas de moyens, nous avons les volontaires de la zone de santé, on peut prendre dans chaque village, c'est les miettes qu'on les paye. Ou soit les chefs de bloc, les chefs de quartier peuvent se mettre au travail pour fermer, pour garder que chaque Congolais ait au moins son identification. Puisque juste là, on ne sait pas qui s'est marié, qui est décédé et qui a mis au monde. Combien d'enfants par jour décédés. Donc nous vivons à la jungle comme ça, comme si on n'avait pas de dirigeants.
Merci.
En tout cas, je salue ces...
Merci, Justin, d'avoir appelé de Fourou. Mais Kalabia, vous êtes à Roux. Bonjour, Kalabia. Kalabia, vous êtes en ligne depuis à Roux.
Bonjour, bienvenue, monsieur Marcel. Bonjour à notre invité du jour. Bonjour aussi à mon ami de... qui vient de réagir là-dessus.
On vous écoute, Kalabia.
Oui, merci, monsieur Marcel. Moi, je suis de 1900.
Kalabia, vous êtes toujours là? Il y a des soucis avec la ligne de Kalabia. On va peut-être le retrouver plus tard avant la fin de cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Il est temps pour nous de lire rapidement quelques réactions sur la page Facebook Okapi Service par rapport à ce sujet. Alors là, c'est Fabien Kambi qui nous écrit depuis Kindu. Quant à moi, je tiens d'abord à féliciter notre premier ministre ainsi que le ministre du Plan Christian Mwando pour cette bonne initiative d'avoir pensé organiser les recensements dans notre pays, la RDC, car les recensements permettent de saisir le volume de la population, la façon dont elle est spatialement répartie. Le recensement permet de répondre non seulement aux besoins du pouvoir public, mais aussi à des fins scientifiques. Mais j'ai une question très pertinente à poser à notre invité par rapport à cette thématique, monsieur le journaliste. Nous savons très bien que le recensement de la population est une opération qui est coûteuse et laborieuse, mais sincèrement, avec ces énormes défis auxquels notre pays fait face, notamment à l'insécurité persistante à l'est du pays, et la Covid-19, des grèves par-ci par-là, est-ce que notre pays dispose vraiment de moyens financiers pour organiser cette opération au recensement, professeur?
Oui, mais merci bien. J'ai suivi Justin, j'ai suivi une partie de notre compatriote Kalabia, et je viens de suivre Fabien aussi. Moi, ce qui me fait la joie, qui me donne la joie, c'est l'intérêt manifeste dans le milieu de la jeunesse, qui pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore avoir une autre génération sans carte d'identité. C'est ça ce que je veux dire et que je comprends par rapport à leurs réactions. Et aujourd'hui, tous les jeunes, partout où nous passons, ils demandent quand est-ce qu'ils auront leur carte. Mais il faut maintenant que je revienne vers la dernière suggestion de Fabien. Je disais au début qu'aujourd'hui, nous avons quand même un leadership qui inscrit la question de l'identité sur son agenda prioritaire. Et on a eu déjà à organiser des commissions par rapport au coût qui mettent ensemble la CENI, qui mettent ensemble l'INES et l'ONIP pour voir comment est-ce que on peut mutualiser les efforts, mutualiser les ressources au lieu que chaque entité, dans le cadre de ses attributions, puisse avoir, oui, évidemment, ses moyens propres. Mais il y a des aspects qui s'entrecoupent, qui s'entrecroisent. Sur ces aspects qui s'entrecroisent, il y a lieu de faire des économies en faisant la mutualisation. Et la deuxième, ce que je donnerai comme deuxième réponse, c'est le recensement, comme ils l'ont dit, mon collègue l'a dit au début, les opérations d'identification, des recensements, d'enrôlement sont des opérations qui coûtent cher. Vous avez entendu des chiffres circuler à gauche, à droite, mais moi, je ne voudrais pas revenir encore sur les chiffres.
Oui.
Donc, on a déjà cité des chiffres ici et là. Mais ce que les auditeurs doivent savoir est que aujourd'hui, ces opérations s'effectuent avec des technologies de pointe. ce n'est plus quelque chose où il faut encore aller avec les bics, il faut aller avec les feuilles, etc. Donc, il y a toute une technologie.
Mais vous savez que le plus important, la population attend de vous voir quand même commencer. Parce que vous n'avez pas encore commencé, vous êtes encore au niveau d'expertise et tout, alors que la population aurait...
L'expertise voudrait que nous puissions finaliser aujourd'hui les machines qui vont nous permettre de pouvoir identifier les gens et garder les données.
Oui.
Parce qu'il faut peut-être que j'explique le processus. Une fois la personne enregistrée par les machines que nous allons commander, ces informations sont directement transférées sur les serveurs de chaque province. Et les serveurs de chaque province qui les traitent les envoient à un fichier général de la population, comme chaque pays aujourd'hui moderne a son fichier général de la population. Donc, on aura au niveau de chaque province un serveur qui est en fait une base de données de la population. Et c'est notre souci. Et l'innovation, c'est quoi? L'innovation, nous voudrions que par les truchements de ces serveurs, de ces bases de données, qu'il y ait interopérabilité. Que un sujet qui vient de Kinshasa, qui va à Lubumbashi, si on veut identifier son identité, on veut authentifier à partir de Lubumbashi, Lubumbashi doit être capable de communiquer, d'entrer en contact avec les fichiers généraux de la population. Ou sinon, les fichiers généraux de la province où l'individu a été identifié. C'est cette interopérabilité-là qui va constituer une grande innovation et une grande modernisation de notre administration. Mais
vous avez suivi Fabien qui nous a écrit, les Kindoua émis également quelques craintes par rapport à l'insécurité à l'est du pays, par rapport à la Covid-19. Est-ce que vous pensez que cela ne posera pas trop de problèmes pour recenser, identifier la population?
Non, je ne crois pas que l'insécurité doit faire que l'État est absent dans quelconque espace de notre pays.
Oui.
Donc il n'y aura pas des zones de non-droit.
Voilà.
Et par rapport à la Covid, vous savez, je suis ici dans votre studio, j'ai vu que partout, il y a des mesures barrières qui sont utilisées, etc., pour pouvoir prévenir. Donc ces mesures seront de rigueur et je crois que et l'insécurité et le Covid ne peuvent pas nous empêcher de pouvoir identifier la population.
On revient à vous, professeur André Tchikaï. Là, je me tourne avec l'autre invité, le professeur Barthélémy Kalamba Ibanza, lui qui est démographe. Alors, vous avez dit, professeur Barthélémy, que cela n'a que trop duré. 37 ans après, il était vraiment temps. Et vous pensez qu'il y a certaines priorités auxquelles déjà l'ONIP devrait s'affairer pour que les choses avancent, en tout cas, de manière à ce que ces recensements puissent vraiment aboutir?
Oui, il faut préciser que la question d'organisation du recensement comme celle de l'identification de la population nationale, en tout cas ces deux questions relèvent de ce qu'on est habitué à entendre ici en RDC sous le vocable de la volonté politique. Je vous ai dit que depuis 1994, nous étions en train de préparer le recensement. Depuis 1994. Et de 1994, et puis bon, il y a eu ce qu'il y a eu sur le plan sécuritaire, politique. 2005, on s'est dit, on va encore avoir on va organiser, en fait, 2004, les recensements, les élections de 2006. Vont être précédés par le recensement. Ça n'a pas été le cas. 2007, on relance. On dit les élections de 2011 vont être précédées par le recensement. Ça n'a pas été le cas. 2018, c'était la même chose. Et je me rappelle, un des ministres nous avait dit dans une grande réunion que le recensement n'était pas constitutionnel et que les élections sont constitutionnelles. Vous pouvez d'ailleurs observer aujourd'hui les opposants qui sont maintenant descendent dans la rue, ils ne descendent pas dans la rue pour réclamer le recensement.
ils descendent dans la rue pour réclamer les élections. Et après les élections, ils vont dire que les élections n'ont pas été transparentes, tout simplement parce que on ne sait pas qui est qui. Que ceux qui ont gagné les élections ont triché. Et puis ça va nous emballer encore dans... Nous allons nous retrouver dans l'insécurité comme c'est devenu le mode de vie au Congo. Je suis en train de me poser des questions, pourquoi est-ce que aujourd'hui l'opposition politique ne peut pas exiger du gouvernement la réalisation du recensement et l'identification nationale avant de parler des élections? Eh bien, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème de volonté politique. Maintenant, nous voyons cette volonté politique dans le gouvernement Samano Kone. Nous avons travaillé dans cette commission de mutualisation de budget de ces trois structures. Et c'est un travail louable. Raison pour laquelle je me réjouis à Fabien pour féliciter le Premier ministre, féliciter le ministre Bucan. Je pense que nous avons maintenant l'obligation de les soutenir, de soutenir le gouvernement pour que le gouvernement organise pour nous ce recensement. Parce que si le gouvernement n'organise pas ce recensement, nous allons nous retrouver avec les élections, avec des problèmes. On ne saura même pas, demain ceux qui vont encore gouverner le pays après 2023, sur quelle base ils vont placer leur gouvernance. Nous avons aujourd'hui un budget de, hier c'était autrefois 4 milliards, mais 4 milliards c'était pour quel effectif de population, 6 milliards c'était pour quel effectif de population, mais là on parle de 11 milliards. De quoi on parle? Donc, pour moi, je suis bien dans l'approche que le collègue qualifie de critique, mais vraiment nous devons ôter le temps de demander au gouvernement de tout faire pour organiser. Il y a déjà la bonne volonté. Nous voyons cette bonne volonté.
Mais professeur, professeur.
La bonne volonté du temps de Mozito. On ne voulait pas ça.
Vous parlez justement.
J'ai l'impression qu'avec le Premier ministre Mozito, on allait avoir le recensement. Avec le Premier ministre Matata, on allait avoir le recensement. Et voilà, nous sommes maintenant avec le Premier ministre Samalou Kondé, qui a fait un exercice très, très, très ingénieux. Maintenant, où est-ce que nous allons avoir des réponses?
Mais justement, professeur, c'est ça la question.
S'il vous plaît. Oui. J'ai entendu le Premier ministre dire au Parlement que les élections auront les recensements, on verra.
Mais professeur, c'est la question, moi je vous pose, parce que tout le monde est d'accord, il est unanime, il faut absolument ce recensement. Alors vous, en tant que démographe, la question était de savoir quels sont d'après vous les premiers signaux forts qui pourront porter vraiment l'espoir à la population pour dire que cette fois-ci, ça y est, le recensement aura bel et bien lieu.
Ben, le premier signal, c'est le fait que le Premier ministre, le ministre du Plan, en fait, sont avec son gouvernement, et ils ont mutualisé les activités de ces trois institutions, et le budget a été pour le recensement, l'identification nationale, ce budget a été vraiment revu à la baisse. Et donc, avec ce budget, nous pouvons croire, la population en tout cas, je peux également croire que nous allons avoir le recensement cette fois-ci, parce que lorsque nous avions travaillé dans cette commission de mutualisation, j'étais là. Nous avons également proposé un calendrier au gouvernement, avec les risques possibles. Et nous avons vu que le gouvernement a adopté ça. Le président de la République a adopté ça. Et ça, pour moi, c'est déjà un premier signal.
Oui.
Et le deuxième signal, c'est que si on peut déjà mettre à la disposition du bureau de coordination du recensement de l'argent, comme ce qu'on a fait pour la CNI, et ça, c'était un deuxième signal.
Voilà, merci professeur, restez toujours en ligne. Il est temps pour nous de nous tourner vers le standard où il y a des auditeurs qui veulent bien intervenir. Et bienvenue qui nous appelez de Kinshasa. Et Jean Mukanga qui est à Kananga. Bienvenue, vous nous appelez de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour
David. On vous écoute, bienvenue. Bienvenue, on a du mal à vous suivre, essayez de vous déplacer, vous êtes dans un endroit bruyant, il y a trop de bruit autour de vous. On vous retrouve tout à l'heure, on va à Kananga pour accorder la parole à Jean Mukanga. Jean Mukanga, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Jean Mukanga.
J'avais une question à poser à l'invité.
Allez-y.
Est-ce que le recensement va concerner aussi les étrangers, les Congolais qui sont à l'étranger?
Voilà, ils vont répondre, hein, notre invité de l'ONIP est là, il va répondre. Merci Jean Mukanga d'avoir appelé du Kananga. On revient à Bienvenue, qui nous a appelé des Kinshasa. On fait signe par Polydor Basfunga qui a la mise en ordre que ça ne marche pas avec Bienvenue qui a appelé des Kinshasa. Alors, vous dites quoi? Le recensement, vous avez suivi la question, ça va concerner également les étrangers?
Oh. Pardon, hein. J'aimerais d'abord revenir à... Hein? au plaidoyer, en fait, de mon collègue Kalambay.
Oui.
Et j'ai suivi à distance tous les travaux de la commission mixte, parce qu'aujourd'hui, on sait travailler même à distance, j'étais à l'étranger, mais je suis en train de soutenir son plaidoyer, en fait. Et nous devons nous poser la question, finalement, qui ont peur du recensement et de l'identification? Parce que chaque fois que cette question est posé. Vous avez entendu là parler du gouvernement Mozito. Je peux m'enchanter parce que j'étais dans ce gouvernement. Et tout d'un coup, c'est pour le glissement. On fait peur à celui qui veut prendre ses dossiers entre les mains. Et face à ces pressions politiques, le premier ministre recule. Aujourd'hui, moi, je pense, comme j'ai vu l'engagement du premier ministre Samuel Koundé, qu'il est vraiment engagé. Pour moi, les indices, c'est l'argent qui est déjà aligné dans les projets de budget. Peut-être que ça ne suffit pas.
Oui.
Mais on peut tenir contextualisé pour dire que quand on n'a pas assez d'argent, la réponse, on va la trouver dans la mutualisation. La réponse, on va la trouver dans le séquencement du financement. Donc, si on ne peut pas faire tout ça en une année, comme le ministre Moando l'a déclaré dernièrement, donc on peut compter sur un ou des exercices budgétaires. Donc, mais pour revenir à Mukanga, à Jean,
oui, qui a demandé du recensement, ça va.
Vous savez, la Constitution est stricte là-dessus, hein. Tous les Congolais ont droit au même traitement. C'est sur base de ces principes et d'inclusivité de l'identification que nous allons opérer l'identification des Congolais de l'étranger.
Voilà, on va également lire une autre réaction sur la page Facebook parce qu'on s'achemine petit à petit vers la fin de cette deuxième tranche du magazine Okapi Service sur l'importance d'identification de la population congolaise. Là, c'est Edmond Bokolo qui nous écrit ceci depuis Mbandaka. L'identification de la population est une nécessité. Il est nécessaire de connaître toute la population de la RDC afin d'élucider les Congolais et les étrangers. Ce fichier d'identification permettant de savoir qui doit s'enrôler et voter en décembre 2023. Pour la durée, je pense qu'aller jusqu'à mai 2023, c'est vraiment une exagération. D'ailleurs, le premier recensement, bon ça on l'a déjà dit, qui a été effectué en 1984, et de lui, il pense que pour la durée, aller jusqu'en mai 2023, c'est une exagération. Un autre auditeur en ligne, on va accorder rapidement la parole à cet auditeur qui est en ligne, qui nous appelle de Kinshasa, c'est Glody. Glody, vous nous appelez des Kinshasa. Bonjour Glody. Glody, vous êtes en ligne? Apparemment, il y a encore de soucis techniques avec la ligne de Glody. Alors, on revient à Maître Edmond Bokolo qui a écrit de Mbandaka qui a estimé que mai 2023, c'est quand même une exagération et pour lui, on peut faire ça, on peut terminer ça aussi et peut-être, c'est ce que j'ai compris un peu avant mai 2023.
Oui, mais vous savez, en ce qui concerne particulièrement l'identification, l'opération d'identification de la population est une opération permanente et durable. Sitôt que vous terminez, il y a de nouvelles naissances.
Oui.
Il y a de nouvelles naissances, il y a de nouveaux numéros d'identifiant unique qui seront générés. Hein? Il y aura des décès, les gens qui vont être radiés du fichier général. Donc c'est une opération qui devient routinière comme on l'a dans tous les pays. Donc la mise à jour du fichier général de la population va exiger ou demande que les enregistrements des nouvelles naissances, leur identification, soit une opération continue. Et c'est ça ce que je disais au début, que avec l'identification de la population, on va refonder, hein, on va refonder notre administration. Donc, les pays sera en mesure de savoir à tout moment, comme la question que vous posiez parfois, qui trouble les gens, qui est qui. Cette question-là trouble beaucoup de gens. Or, c'est ça le fondement de notre souveraineté. Et je vois des interprétations politiques, hein, à gauche, à droite, qui tendent à faire peur aux gens qui sont engagés dans le processus de recensement et d'identification. À tel point que ils sont en train parfois même de sillonner dans les ambassades pour aller dire que non, si on veut faire ça, c'est parce qu'on veut glisser. C'est pas, mais même si aujourd'hui il y a un autre régime qui s'installe, ce régime aura besoin d'identifier. C'est toujours dans un timing. Si le timing n'est pas bien géré, on va toujours donner des prétentions à ce régime de pouvoir chercher un glissement. Mais pour ne pas arriver à ça, dans d'autres pays, le fichier général, le fichier d'électeur est tiré directement du fichier général de la population.
Voilà, on va revenir à vous, professeur André Tchikaï, pour conclure par rapport à ces sujets. Mais on accorde tout de suite la parole au professeur Barthélémy Kalambay pour sa conclusion. Alors, professeur, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce recensement et surtout à ce qu'il y a comme une unanimité autour de ce recensement pour qu'il puisse vraiment avoir lieu? Votre conclusion, professeur Barthélémy Kalambay Banza. Professeur Barthélémy, vous êtes en ligne? Apparemment, il y a un petit problème aussi avec la ligne du professeur Barthélémy à Kalambay Banza. Il me semble qu'il n'est plus là. Alors, on va conclure avec l'invité qui est avec nous au studio, professeur André Tchikaï. Professeur, donc, on est sur... là, on me fait signe que le professeur Barthélémy... Professeur Barthélémy, vous êtes là?
Oui, oui, je suis là, je suis là.
Bah, justement, une conclusion avant d'accorder aussi la parole au professeur André Tchikaï pour conclure.
Oui, d'abord une correction. Lorsque je parlais de son éminence le cardinal Ambongo, il ne s'agissait pas de plus de 90 millions d'habitants, mais plutôt plus de 90% de catholiques protestants.
D'accord.
Eh bien, à titre de conclusion, je vais dire que nous pouvons cette fois-ci faire confiance au gouvernement Samalo Kondé. Nous pouvons croire que le gouvernement Samalo Kondé, qui s'inscrit dans la ligne politique du président de la République, Félix Tshisekedi,
oui,
et qu'ils vont nous donner pour cette fois-ci de recensement.
Voilà.
Là, nous tenons à avoir ce recensement. S'ils peuvent nous donner ce recensement, ce serait une fierté, la fierté nationale aux Congolais, comme le président est en train de le faire sur le plan diplomatique.
Et yep, même merci. Merci beaucoup, professeur Barthélémy Kalambay Banza. On va s'arrêter par là avec vous. On rappelle que vous êtes démographe et merci d'avoir été des nôtres pour aborder ces questions sur l'importance d'identification de la population congolaise. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
En une minute également, votre conclusion, professeur André Tchikaï.
Non, moi, je remercie et je soutiens les autorités du pays, et à commencer par le président de la République, Félix Tshisekedi, avec son premier ministre, Samalo Kondé, qui affiche une volonté politique réelle. Parce qu'on ne peut plus parler d'absence de volonté politique. La volonté politique est là, et nous sentons que ils nous soutiennent, et nous restons persuadés que bientôt, nous allons offrir la carte d'identité à chaque Congolais, Congolaise.
C'est ce qui attend tout Congolais. Merci, professeur André Tchikaï. Nous rappelons que vous êtes coordonnateur de la cellule des experts à l'Office national de l'identification de la population NIP. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci. Je remercie la radio Okapi de cette opportunité pour expliquer à nos compatriotes les enjeux et tout ce qui se trame autour de l'opération de recensement et d'identification. Merci bien.
Merci.